Japon et Culture est une association lilloise qui a pour objectif de promouvoir la culture et la langue japonaise à travers de nombreux ateliers ouverts à tout type de public. Entre cours de japonais, ateliers origami et rencontres avec des natifs, leur objectif est de faire mieux connaître la culture japonaise en privilégiant toujours l'authenticité et la convivialité. Rencontre avec Isabelle, trésorière, passionnée et membre depuis 5 ans.
Donc, je m'appelle Isabelle, j'ai 32 ans, je travaille à l'Université de Lille en tant qu'ingénieure en bioinformatique, mais je ne vais pas expliquer ce que c'est que la bioinformatique parce que c'est un tout autre sujet. J'apprends le japonais depuis 5 ans, depuis que je suis arrivée sur l'île en fait. J'avais commencé d'apprendre un peu le japonais en autodidacte à un moment où j'avais un peu de temps. Après, quand je suis arrivée sur l'île, j'ai cherché s'il y avait des assos qui proposaient du japonais. Et je me suis dit déjà que c'était plus sympa d'apprendre à plusieurs, d'apprendre avec un vrai prof plutôt que tout seul avec des bouquins ou sur internet. Et puis comme ça, c'était aussi une occasion de rencontrer des gens, de faire connaissance avec des gens dans une ville que je connaissais pas du tout. Et puis autour d'un sujet qui m'intéresse forcément.
Et qu'est-ce que Japon et culture ?
Eh bien, Japon et Culture, donc, c'est une association qui vise à promouvoir la culture japonaise. Donc, on propose des cours de langue, des cours de calligraphie, d'origami, des cours de conversation bah, pour les gens qui ont déjà un certain niveau, qui ne veulent pas apprendre plus de grammaire, mais qui veulent vraiment s'entraîner à parler et à écrire. Donc, il faut déjà avoir un certain niveau. Et le dernier, on a des cours de kanji, donc les idéogrammes japonais qui font tellement peur à tout le monde.
Et vers quel type de public est-ce que c'est orienté, ces activités ?
C'est pour un peu tout le monde. On accepte les gens à partir de 14 ans à peu près. Donc on a un certain nombre de mineurs dans l'asso. On a des jeunes adultes qui sont intéressés par les mangas, par exemple. On a aussi des grands-parents dont l'un des enfants est marié avec un japonais ou une japonaise et qui ont envie de pouvoir discuter avec leurs petits-enfants, par exemple. Donc c'est vraiment c'est ouvert à tout le monde. Et on a les cours de calligraphie, c'est pour les passionnés d'art de manière générale, il n'y a pas besoin d'apprendre le japonais en parallèle. Là, c'est vraiment pour les gens qui aiment la calligraphie et qui ont envie de s'y essayer, mais sans pour autant parler ou apprendre le japonais. Donc au niveau des cours, on a également une partie qui s'adresse aux enfants franco-japonais. En fait, donc on a d'une part les cours de japonais pour les Français qui débutent complètement, mais on a également des cours pour les enfants franco-japonais, donc qui en général sont bilingues, parlent japonais à la maison, et donc le but pour eux c'est d'avoir des cours d'histoire, etc., qui suivent le cursus japonais pour si jamais un jour leur famille décide de retourner vivre au Japon. Donc ces cours-là, on en a des manuels qui sont envoyés par l'ambassade, ça suit vraiment le programme japonais.
Selon vous, pourquoi est-ce que la culture japonaise est si attractive ?
Parce qu'elle fait rêver peut-être, parce qu'elle est exotique et parce que je pense que beaucoup de gens, notamment de ma génération, ont un peu grandi avec les dessins animés franco-japonais qui passaient à la télé et du coup ça, pour beaucoup ça a été un peu un pied d'entrée dans la culture japonaise. Après ça a été les mangas et du coup en général quand on se lance dans les mangas on a un peu envie aussi d'en savoir plus, on voit je pense que les mangas sont un peu une porte d'entrée dans le vocabulaire japonais, la langue japonaise. Et en général, après, c'est ça qui donne aussi envie d'en savoir plus, parce que forcément, il y a des termes en japonais dans les mangas. Et du coup, en général, ça peut être une occasion après de vouloir en savoir plus.
Et si la culture japonaise est si attrayante pour le public européen, on va dire, parce que c'est plus ou moins le cas, genre je crois que la France est le deuxième consommateur mondial de manga, oui. Est-ce que ce serait, selon vous, parce qu'ils ont une culture peut-être beaucoup plus exotique, beaucoup plus fantasy, limite psychédélique ?
Ça, on peut pas nier que c'est quelque chose d'assez attrayant dans la culture japonaise. Mais je pense que ce qui est attirant, c'est le fait que ce soit très différent de la culture française. Parce que c'est un pays qui est aux antipodes du monde, donc qui a évolué complètement différemment d'une autre. On n'a pas forcément grand-chose en commun dans les manières de penser, les valeurs de la société, etc. Et donc oui, il y a des choses qui nous paraissent complètement folles, qui sont complètement banales là-bas. Et moi, je trouve que c'est justement ce qui est très intéressant, de découvrir à quel point les gens réfléchissent différemment, ont des loisirs différents, etc.
On dit que chaque langue voit le monde différemment. Est-ce que c'est particulièrement le cas pour la langue japonaise ?
Je pense que ce qui est assez marquant dans le japonais, c'est tout ce qui concerne la politesse. On dit que les japonais sont polis, et c'est vrai, et ça se sent vraiment dans la langue japonaise, parce qu'il y a différents niveaux de politesse quand on parle. Il y a différents niveaux de langage. Il y a le langage humble, le langage honorifique, et on va utiliser l'un ou l'autre en fonction de si on s'adresse par exemple à un client, à un supérieur hiérarchique ou à une personne subalterne, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser pour les étrangers qui apprennent le japonais, mais c'est une part vraiment essentielle dans la langue. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est difficile de s'intégrer au Japon, parce que vu que c'est très important là-bas, on attend vraiment des gens qui parlent le japonais, qui sachent utiliser le bon niveau de langage et qui sachent maîtriser ces aspects-là.
Et si on souhaite voyager au Japon pour un petit moment ou alors aller y faire ses études, est-ce que partir en ayant quelques notions déjà de japonais, c'est quelque chose d'indispensable ?
Alors indispensable, ça dépend dans quelle ville on va. Si on va dans les incontournables, enfin les grandes villes, Tokyo, Kyoto, Osaka... Je pense qu'on peut être capable de se débrouiller avec juste de l'anglais. Si on sort des sentiers battus, là, il faudra absolument savoir se débrouiller un minimum en japonais. Après, moi, ce que je pourrais conseiller pour quelqu'un qui va ne serait-ce que voyager au Japon, c'est de maîtriser au moins les syllabaires. Donc sans aller jusqu'à connaître les 2000 kanji, parce que ça prend des années, au moins connaître les syllabaires, donc il y a une cinquantaine de signes dans chacun. Ça, je pense que c'est déjà un bon point de départ, parce qu'avec ça, on va être capable de lire pas mal de choses. Ne serait-ce que bah, les noms des stations dans les gares, dans les grandes villes, ça va être aussi marqué en alphabet latin. Dans les petites villes, c'est mort, c'est pas la peine. Il faut au moins maîtriser les syllabaires. Les enfants japonais commencent par apprendre les syllabaires, et ensuite ils apprennent les kanji au fur et à mesure, et ils les incorporent au fur et à mesure dans leur écriture. Donc c'est pareil, un enfant japonais, il est autonome assez tôt pour prendre le train ou le bus, etc. Donc tous les noms de stations, ça va être marqué en kanji et en syllabaires, pour que les enfants puissent se débrouiller. Donc du coup, si les étrangers peuvent aussi lire les syllabaires, je pense que ça peut les rassurer un peu, quoi.
L'écriture japonaise, le kanji, est composée en tout de 6000 idéogrammes et a toujours eu cette réputation d'être particulièrement difficile à apprendre et à utiliser. Cependant, cette réputation est-elle bien justifiée ?
Alors, pour donner quelques chiffres, un japonais est censé connaître environ 2000 kanji à la fin de sa scolarité. Donc c'est pas rien, effectivement, c'est assez compliqué à apprendre, et je pense que beaucoup d'étrangers font un peu l'impasse là-dessus et préfèrent vraiment se focaliser sur l'oral. Moi personnellement, je suis passionnée de kanji, donc je risque de pas être forcément très neutre là-dessus, mais je comprends que ce soit vraiment un écueil. Après, c'est vraiment aussi un mode de réflexion qui est différent, parce que vu qu'un kanji, à la base, ça représente une idée, un concept ou un objet... quand on connaît l'idée qu'il y a derrière, ça facilite aussi. Si on voit un mot avec plusieurs kanji, mais qu'on connaît les kanji, on peut comprendre un petit peu ce dont il est question. Et puis finalement, par rapport à une langue comme le français, où il y a un nombre très limité de lettres, je pense qu'on fait plus difficilement des fautes d'orthographe en japonais, justement parce qu'on écrit avec des idées. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est très différent. Il faut connaître beaucoup plus de signes, mais après, je pense que quand on les connaît, c'est plus facile à utiliser pour écrire par rapport au français, où bah, l'orthographe des mots, des fois, ça comprend pas trop la logique, quoi.
Et imaginons que du coup, en nous écoutant, il y ait des passionnés de la culture japonaise ou alors des gens qui souhaitent faire des études au Japon, qui nous écoutent et qui souhaitent s'inscrire ici. Ça va devoir être quoi la démarche ?
Alors, on va ouvrir très prochainement les inscriptions pour l'année prochaine. Donc on a les cours qui commencent en octobre, et donc les gens pourront s'inscrire dès cet été. Le formulaire d'inscription va être bientôt disponible sur notre site internet, donc www.japon-culture.com. Si les gens ont des questions, ils peuvent nous contacter par mail, on y répondra sans aucun souci, contact@japon-culture.com. On a une page Facebook également, où on peut nous contacter. Et également, le dernier point intéressant à souligner peut-être, c'est qu'en septembre, tous les samedis matins, de 10h à midi, on organise des permanences au local de l'association, 32 rue Boucher de Perthes à Lille. Et donc à chaque fois, il y aura des membres du bureau et des professeurs qui seront là pour accueillir les gens, discuter avec eux, répondre à toutes leurs questions.
Voilà. On va vous proposer à la fois des cours de kanji et des cours de calligraphie. Est-ce que ça veut dire que l'écriture japonaise, du coup, c'est aussi une forme d'art ?
L'écriture japonaise, c'est complètement une forme d'art. La calligraphie, c'est un art en soi. Et il n'y a pas besoin de connaître la langue japonaise pour s'y essayer, même si je pense que ça peut être un plus. La calligraphie, je pense que c'est un art qui est très souvent pratiqué au Japon. Ça fait partie des matières en fait que les élèves vont apprendre à l'école. Comme nous, on a les arts plastiques, par exemple. Je pense que les cours de calligraphie au Japon, tous les élèves en ont, par exemple.
Et en venant ici, est-ce qu'on a une chance de rencontrer du coup des natifs japonais ou alors des gens qui y ont vécu pour nous apprendre la langue ?
Toutes nos professeurs sont japonaises, déjà. Donc oui, des natifs japonais, vous pouvez en voir. Et après, des gens qui voyagent au Japon, bah, au sein de l'asso, on est plusieurs, je pense, avoir déjà eu cette chance. On nous pose souvent des questions sur les voyages au Japon, et c'est vrai qu'il y a certainement pas mal de choses qu'on aurait aimé savoir avant d'y aller, qu'on réalise une fois sur place, etc. Donc on réfléchit aussi un peu à comment transmettre notre expérience des voyages au Japon. Ça peut être par exemple un atelier pendant une de nos fêtes, où on pourra parler un petit peu des choses importantes et que les gens viennent nous poser les questions qui les tracassent.
Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir de l'association ?
Depuis quelques temps, on est de plus en plus sollicité pour faire des prestations. Donc je dirais pas que c'est un projet en plus, parce qu'on a déjà commencé depuis quelques temps, mais en gros, on peut intervenir pour des entreprises, des associations, etc., qui voudraient faire des ateliers autour de la culture japonaise. Donc on propose de faire des ateliers de calligraphie, d'origami, d'initiation à la langue japonaise. Bientôt, on va commencer aussi, on va proposer des ateliers de cérémonie du thé, donc... Je pense que c'est aussi un très bon moyen de promouvoir la culture japonaise.
Et qu'est-ce que c'est cette cérémonie du thé ?
En fait, la cérémonie du thé a longtemps été un élément assez central dans tout ce qui est, on va dire, un peu diplomatie, communication au Japon. Par exemple, avant la signature d'un contrat, on pouvait faire une cérémonie du thé. Donc c'est un moment de partage, un moment un peu zen, avec certains codes, etc. Et voilà, en termes d'événements culturels, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Pour nous, on va vraiment voir le côté zen de la chose. On se détend, on boit un bon thé, on profite de l'instant. Et donc le thé en question, c'est fait à partir de thé matcha. Donc en général, les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est. C'est du thé en poudre qu'on va battre avec un fouet en bambou. Donc c'est le goût est assez particulier. Donc quand on propose ce genre d'atelier pendant nos fêtes, nos événements ou bien pendant une prestation, c'est à la fois faire découvrir le goût du matcha pour les gens qui ne connaîtraient pas, et aussi la manière de le faire et un petit peu les gestes pour le préparer. Alors forcément, ça peut être un peu simplifié, parce qu'une cérémonie du thé, ça peut durer jusque 4 heures, mais ça donne un petit peu... Les bases de la cérémonie du thé, avec quelques explications sur d'où ça vient, comment ça se prépare, dans quelles circonstances on fait ce genre d'atelier, par exemple.
Si vous êtes intéressé par cette association, rendez-vous sur le Facebook de Japon et Culture ou sur leur site internet.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.